Bonjour à toutes et tous. Effectivement, David Rosset, heureux pasteur de cette communauté. Et puis, on va pouvoir prendre ce deuxième volet de suivre le Christ dans un monde qui change. Alors, comme tout le monde n'est pas là, parce qu'il paraît qu'il y a un peu des règles qui sont différentes selon les dimanches, je vous fais un tout petit rappel de ce qu'on a vu dimanche passé. Je vous ai mis une slide là, ou bien même plusieurs slides, qui déterminaient un peu en quoi le monde pouvait changer. Et puis, on a vu qu'il y avait des votations qui sont assez challengeantes pour nous en tant que chrétiens. Il y a des règles sanitaires qui sont aussi assez variables au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, je fais souvent le gag maintenant, si je devais calculer en conseil le nombre d'heures qu'on a pris juste pour régler cette crise du Covid depuis une année et demie, je me dis qu'on aurait fait un projet d'évangélisation pour toute la ville de Nyon et la côte, qui aurait été juste phénoménal. Et on a passé toutes ces heures juste pour essayer de faire moins bien que d'habitude. Donc c'est un peu frustrant, vous pouvez bien penser à nous, mais on est tous dans la même barque. Et puis si on étale ça à l'échelle de la Suisse et du pays, le nombre d'heures qui ont été passées dans différents comités et tout pour régler cette crise, on voit que c'est un monde changeant et qui nous prend une énergie phénoménale. C'est ça. Puis j'ai mis encore une petite photo des inondations, parce que c'est aussi un peu une thématique qu'on parle moins parce qu'on est pris par le Covid, mais qui n'en est pas moins actuelle. Et je crois que l'épître de Pierre nous invite à essayer d'habiter le monde tel qu'il se présente et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. L'épître de Pierre, il ne veut pas faire de nous des espèces d'idéalistes qui disent, voilà, il faudrait faire ci, ça, puis regardez, nous, comme chrétiens, on a tout bien analysé, puis on a vu comme le monde va mal. Et on s'en désole, et on le critique, et puis on se dit, heureusement, le petit reste, c'est nous, bien au chaud, dans nos murs, de la Juste Olivier 6. Puis là, on est bien entre nous, hein. Puis après, on ressort, puis ça fait peur. Ouh. Parce que ça va mal. C'est vraiment pas ça dont il est question. Il nous invite à habiter le monde tel qu'il se présente. Et ce côté désécurisant, il ne faut pas le sous-estimer parce qu'il est bien là. Il fait partie de nos peurs, il fait partie de nos tripes. Hein. Et puis, on a vraiment besoin non seulement d'affirmer sa foi personnelle, et ce matin, j'ai envie de dire, on a besoin d'affirmer notre foi communautaire. On a pu le vivre dans la louange, mais sachez, si vous devez retenir un truc de ce matin, on n'est pas des îles dispersées comme ça de par le monde, perdues dans nos petits environnements propres face à une situation qui change. On est véritablement un nous. Parce qu'on partage cette foi les uns avec les autres. Et je crois que ce que Pierre nous dit ce matin, c'est que cette foi par rapport à une situation qui change, je la partage avec vous tous et vous la partagez avec moi. Et ça fait toute la différence. On va parler de ce nous. Donc, on va écouter les premiers chrétiens, et puis je vous remets la phrase qui choque un peu, celui qui ignore les Écritures ignore le Christ, donc on n'a pas envie d'ignorer le Christ, on va se mettre à l'écoute de Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande compassion, nous a fait naître de nouveau, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé, non pas sur terre, mais dans les cieux. À vous qui êtes sur cette terre, gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. À nous tous, voilà ce que Pierre nous invite à faire maintenant. 1 Pierre 2, je ne sais plus exactement le verset, mais c'est le début de 1 Pierre 2. Vous-même, comme des pierres vivantes, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle. Construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréé de Dieu par Jésus-Christ. Car voici ce qu'on trouve dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera jamais pris de honte. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les gens sans foi, c'est la pierre que les constructeurs ont rejetée, qui est devenue la principale, celle de l'angle. Et une pierre d'achoppement, un rocher qui cause la chute. Il s'y achoppe en refusant d'obéir à la parole. C'est aussi à cela qu'ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une ligne choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez quoi ? Les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Vous qui êtes autrefois n'étiez pas un peuple, maintenant vous êtes et nous sommes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, maintenant vous avez obtenu compassion. Et le peuple de Dieu dit
Amen.
Amen. Je crois que ce texte nous invite à prendre en compte l'appel radical de Dieu qui est pour une communauté. L'appel radical de Dieu, il n'est pas seulement pour ma vie personnelle dans un effort de conversion, c'est un appel radical de Dieu pour une communauté. Dieu appelle un peuple, il façonne un peuple et non une somme d'individus pris individuellement, justement. Est-ce qu'on arrive à s'imaginer de ce que ça veut dire, ça, que Dieu appelle un peuple et pas moi tout seul, perdu comme un grand ? L'Église, c'est quoi ? Une famille, des amis, des gens qu'on connaît plus ou moins bien. On dit, proverbe assez connu, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Alors, j'espère que vous avez quand même quelques amis dans l'Église. Mais l'Église ressemble plus à une famille. Je ne sais pas si je vous annonce une bonne ou une mauvaise nouvelle. Mais comme Dieu appelle un peuple, on ne choisit pas avec qui on va être au sein de ce peuple. On pourrait dire, on ne choisit pas son Église, on choisit ses amis. On ne choisit pas de venir à l'Église parce que uniquement on va retrouver ce qu'on aime bien et ce qu'on apprécie. On choisit de venir à l'Église parce qu'on répond à l'appel de Dieu. Je suis allé acheter le pain ce matin à la boulangerie et puis j'entendais les cloches de l'église de la Colombière qui sonnaient. J'aime beaucoup ce rituel du dimanche matin, puis à d'autres moments aussi. J'ai pu faire quelques jours de retraite au Grand Saint-Bernard cette semaine et puis pour les différents offices qui marquent le temps de la journée, chaque fois, c'est une cloche qui sonne. Et c'est le moyen que les hommes ont trouvé, en tout cas ici, en Occident, pour simplement signifier l'appel de Dieu sur le peuple qui va se réunir. Et je trouve ça magnifique, de se dire, on est appelé par notre Père pour dire, viens communier avec tes frères et sœurs qui font partie de ta famille. D'une certaine façon, on ne choisit pas, on est simplement attiré par l'appel de Dieu. Puis en l'occurrence, il se manifeste très concrètement dans une église locale ici à Nyon, comme il se manifeste dans des millions d'églises locales de par le monde, qui sont simplement des formes de cette vie communautaire que nous avons. Et si on pense à différents autres exemples, par exemple Lévi dans les évangiles, qui était assis à sa table des impôts en train de prendre l'argent de tous les contribuables du coin, il est appelé par Jésus, Jésus lui dit « Toi, suis-moi ». Et qu'est-ce qu'il fait tout de suite ? Il intègre un groupe de disciples. Il n'a pas choisi avec qui il voulait être. Il n'a pas choisi s'il voulait être avec Pierre, André et compagnie. Jésus l'a appelé, l'a sorti de sa situation et l'a placé dans un groupe dont il n'a absolument pas choisi qui seraient les membres. Si on prend l'exemple de Paul, c'est exactement la même chose. Il subit une expérience extraordinaire sur le chemin de Damas. Il est conduit jusque dans une maison d'un certain Ananias. Et là, il découvre de suite un groupe, un espace plus grand que simplement sa propre personnalité. Et pourtant, les deux, ils ont vécu des conversions individuelles extraordinaires. Et tout de suite, sans interruption, ils intègrent un groupe qu'ils ne choisissent pas. L'appartenance à l'Église, donc, l'appartenance à notre Église, en l'occurrence, n'est pas un choix de votre part, n'est pas un choix de ma part. C'est un donné de Dieu. Nous sommes le peuple que Dieu s'est acquis. Dieu appelle un peuple de prêtres. Je n'y vais pas dans ce peuple ou dans cette église parce que j'y trouve mon compte. Je n'y vais pas parce que cette église m'apporte quelque chose. Je n'y vais pas parce que j'y suis nourri. Pourtant, c'est toutes des bonnes choses. J'y prends part en tant qu'individu libre et responsable, j'y participe, j'y communie, tout simplement parce que je fais partie du corps du Christ. Ce corps du Christ dont lui est la tête. Dans Pierre, c'est une autre image, je fais partie de cette maison spirituelle dont lui est la pierre d'angle, c'est-à-dire celle qui supporte le tout. Et je trouve très intéressant d'avoir ces deux images. Dans le corps, on a la tête, là qui donne une direction. Dans l'image de la maison spirituelle, on a celui qui offre finalement le fondement, cette pierre angulaire qui fait que tout tient ensemble. C'est deux images différentes, mais qui nous parlent énormément sur qui est Jésus pour nous en tant que peuple de Dieu. Une fois la tête, et une fois cette pierre d'angle qui maintient l'ensemble du corps ensemble, qui offre cette stabilité sur laquelle on peut construire nos vies, être nous-mêmes, individuellement là, des pierres vivantes là où Dieu nous a placés. Mais on a besoin de savoir et de faire partie de cette maison spirituelle, de nous donner aussi cette peine de la construire avec le Christ, sachant qu'on a cette stabilité qui nous permet d'aller de l'avant. Cette appartenance est donc bien plus profonde qu'un choix. On prend souvent l'exemple qu'on participe à un club de foot ou de basket ou je ne sais pas quoi pour dire l'Église, c'est peut-être des fois la même chose comme un club. C'est bien plus profond que ça. Et quand on partage le repas du Seigneur, quand on partage la Sainte Cène, on se rend bien compte que cette communion elle est bien plus profonde qu'un simple choix qui nous fait adhérer à un groupe parce qu'on y trouve plus ou moins son compte ou plus ou moins son utilité. Lorsqu'on décide de suivre le Christ, on décide d'intégrer le corps du Christ. Et puis par rapport à notre monde qui change, je suis assez frappé de voir actuellement, je ne pensais pas que ça pouvait encore arriver, mais encore une poussée plus forte de l'individualisme où chacun finalement fait des choix qui lui paraissent les meilleurs du monde. Puis je ne pensais pas que c'était possible qu'on aille si loin. Et là, je pense qu'en tant que chrétien, on peut vraiment, juste en assumant qui on est, être à contre-courant. Des fois, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait être différent. Mais en disant qu'on fait partie d'un groupe parce qu'on est appelé à faire partie d'un groupe et pas parce qu'on y trouve notre compte ou une quelconque utilité, je pense qu'on dit quelque chose d'hyper puissant. Je pense qu'on dit là, par nos vies, quelque chose qui dépasse tous les raisonnements qu'on pourrait penser et puis avoir dans le monde actuel. On ne fait pas en fonction de mes propres besoins. Je fais en fonction parce qu'il y a quelqu'un d'autre extérieur à moi qui m'a appelé. Et là, on dit quelque chose d'extrêmement fort. On ne dit pas, c'est parce que, voilà, j'y trouverai mon compte, etc. On dit, c'est parce que, simplement, j'ai décidé de suivre quelqu'un d'autre que moi. Et ce quelqu'un d'autre de moi, il m'amène à côtoyer des membres de ma famille que je n'ai absolument pas choisis et que je vais pouvoir découvrir comme faisant petit à petit, je l'espère, faire partie de mes amis, de mes proches, des personnes qui m'entourent pour pouvoir affronter le monde et habiter le monde, pas affronter, habiter le monde tel qu'il est. Et ça, je trouve magnifique et je crois qu'on est d'une certaine manière en train de le vivre avec toutes ces nouvelles qu'on partage régulièrement à travers le Frat News de personnes dans notre communauté qui sont mises à l'épreuve dans leur santé, dans leur situation de vie personnelle. Je crois qu'on peut véritablement vivre cet élan communautaire et on le vit déjà, et j'en suis infiniment reconnaissant. D'essayer d'être solidaires les uns les autres dans ce genre de situation, ce n'est pas qu'un slogan, ce n'est pas quelque chose que le pasteur nous dit de faire le dimanche matin puis qu'on oublie à 11h30, c'est quelque chose qu'on essaye de vivre au quotidien, et je crois que c'est en train de mûrir et en train de s'expérimenter, et j'en suis très reconnaissant. La réalité de cette communauté qui a besoin d'une pierre angulaire. Parce qu'on pourrait se dire, voilà, on se tient les coudes, on est assez performant, on va bien. Et puis, d'oublier cette réalité de la pierre angulaire. La référence pour notre vie entière et pour ma vie entière, je la trouve uniquement en Christ. Et là aussi, on peut faire le parallèle avec ce que je vous disais, si on intègre le corps du Christ parce qu'on y trouve un intérêt ou parce que Dieu nous appelle. Je pousse encore loin, plus loin à la foi, de se dire, même notre adhésion à Christ, notre appartenance à Christ, je ne pense pas que ce soit les bonnes catégories de les penser en termes d'utilité. J'entends assez régulièrement cette envie de se dire, ben voilà, il faut que j'y trouve mon compte d'une certaine façon, ou il faut que je puisse sentir les bienfaits de Dieu, il faut que je puisse ressentir la présence de Dieu, c'est légitime. Mais je ne pense pas que ce soit fondamental dans le sens où même si Dieu ne nous parlait pas pendant X temps, si on ne le ressentait pas, ça ne changerait rien à l'appartenance qui est la mienne. Ça ne changerait rien au fait que je suis son enfant et qu'il m'a acquis pour toute ma vie et pour l'éternité. Et ça, finalement, si on y pense, ça peut être un peu frustrant sur le moment, mais je pense que fondamentalement, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça ne dépend pas de moi, de où j'en suis, puis des fluctuations de mes sentiments, parce que ça, c'est un truc qu'il faut quand même bien avouer, on n'est pas toujours très, très stable et linéaire. Je ne pense pas qu'on est appelé à l'être. Mais par contre, la fidélité que je trouve en Dieu, cette pierre angulaire, elle ne va pas tout à coup se dérober puis se dire « Ah, ben, finalement, j'ai trouvé quelqu'un d'autre, je vais plutôt aller à quelqu'un d'autre. » Il ne va pas pour tout cas se dire oh, « ben, je fais comme au Jenga, je me retire de là et puis je laisse tout tomber l'édifice. » Jésus, ce n'est pas un Jésus de Jenga, c'est un Jésus qui va rester là où il est et qui va tenir l'ensemble de notre maison. Alors notre rôle sur cette terre, notre rôle en tant que croyant, c'est de construire cette maison spirituelle. C'est d'être là, simplement présent, et finalement, d'endosser ce rôle de pierre vivante. Pierre vivante pour notre communauté et pierre vivante là où nous sommes envoyés au cours de nos différentes activités, dans nos familles, dans notre cercle professionnel, avec nos voisins, dans notre contexte de vie de tous les jours. Nous avons besoin de cette réalité-là. Nous avons besoin de cela pour vivre tout simplement et habiter le monde tel qu'il est. Prendre soin de sa maison, je crois qu'on imagine tous assez bien ce qu'il a. On n'a pas tous une maison individuelle, mais peut-être qu'on peut l'imaginer. Alors, il faut tondre le gazon, il faut s'occuper du ménage, il faut faire plein de choses qu'on sait quoi faire. Ben, je pense que pour une église, c'est aussi un peu la même chose. Il n'y a pas trop de gazon à la fratte, mais il y a plein d'autres choses à faire. Et puis, on se dit même les nettoyages, par exemple, punaise. Est-ce que je suis en train de prendre soin de la maison spirituelle quand je viens le vendredi soir ou le samedi matin, puis que c'est encore mon tour? Essayons de le penser comme ça la prochaine fois. On me dit peut-être que ça pourrait être pas mal. On a besoin de prendre soin aussi de ces aspects-là, comme on prend soin les uns des autres. Je vous invitais la dernière fois à prendre soin de notre foi, et prendre soin de notre foi, c'est prendre soin de cette maison qui nous est commune. Ce n'est pas simplement s'occuper de ma foi personnelle. C'est prendre soin aussi de ce qui nous est commun. Et puis là, dans le contexte dans lequel on est, je vous garantis que c'est un sacré challenge. Ce n'est pas facile, on ne va pas le faire en claquant des doigts, mais pour moi, en tant que pasteur, c'est une source de motivation, une source de joie finalement, de se dire que je ne suis pas simplement au service de ma propre vie, mais je suis au service d'un ensemble beaucoup plus large. Et j'ai envie de nous inviter tous dans ce mouvement-là, puis je crois que c'est aussi ce qu'on essaye de vivre avec le Conseil. Christian est membre du Conseil, il y a d'autres personnes qui sont là. En tant que membre du Conseil, on essaye vraiment de stimuler cet aspect-là de nos vies pour qu'elle soit communautaire et que chacune, chacun, ici dans notre Église, puisse trouver sa place et se sentir faire partie de ce corps, se sentir faire partie de cette maison qu'on a envie de construire tous ensemble. Je vous laisse ces deux derniers versets qu'on trouve à la fin du chapitre 1. « En obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs chrétiens. Aimez-vous donc les uns les autres de tout votre cœur. La parole de Dieu, le Christ, vous a fait naître de nouveau, et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. Cette parole, elle est vivante, et notre communauté, grâce à Jésus, elle est vivante. Elle ne meurt pas. Elle dure toujours. Amen.